don't want to be necessarily the one who asks the first question or who has the first comment. Maybe there are some of you who already want to react. Yeah. I wanted to come back to when you started speaking, like you made this whole retrace the way from the nude paintings and the objectifying character of the representation of the bodies in these paintings, and evolved until to work that includes a lot of experience, a lot of situation where the exposure to the situation is really important. And I wanted to come back to the question of a kind of incorporated, or the question of a supposition of a gaze, of the construction of the object of a gaze, and the strategies to oppose a gaze that could be voyeuristic and that could be objectifying. Maybe you can speak a bit more about that, and also about the question of the viewing conditions. So in the first, like at one hand, one could approach what you call wet aesthetic as a formal approach, but you could also say we're talking about a specific form to conceive of bodies that is a political approach that needs certain conditions, that needs certain trust as a condition where viewing becomes possible without becoming exposed. And these reflections are part of artworks and part of the way how artworks are presented, but also choose or conceive their visual strategies.
Yes, thank you. It's an important and very difficult question also. The visuals, I think for Tijal Shah, for instance, one of the strategies that she explores in her work is, for instance, that it's not available in whatever viewing conditions you want. So here we see it in very voyeuristic setting, actually, which is not what she wants. I mean, I've asked for permission, and she agrees that I show it like that with little imagery that doesn't give a real vision of the work and does not do the things she wanted to do. So it's a mostly control over viewing conditions, first of all. In what setting does she show it, and what is the entrance? This is almost institutional control over the viewing conditions of the work. And then secondly, the way she organizes it in a viewing, that you have no overview over the work that is offered. You can never have an overview of all the screens because it's in a round installation. And the camera is also always giving snippets, which is indeed feeding into a sort of voyeuristic desire, but at the same time, it's also frustrating any continuation of that voyeuristic desire. So it's never giving free access to it. But it's a very important question to which I don't have the answer completely yet at all.
Y a-t-il un lien sous-tendu entre l'humidité et le symbolisme féminin?
Est-ce qu'il y a un lien entre l'humidité et le symbolisme féminin? Encore une bonne question, mais on devrait en fait presque écrire une sorte d'histoire de l'humidité et voir dans l'histoire de l'art et voir comment ça a été arrangé. Je crois quand on regarde comment la féminité a été explorée dans l'histoire de l'art, l'humidité n'est pas vraiment part de ça. Il y a toujours il y a l'opposition à l'humidité, mais l'humidité n'est pas du tout, fait pas du tout partie du féminin en soi, comme image. Dans la littérature, dans la poésie, c'est complètement différent. Là, il y a vraiment une sorte d'exploration du féminin comme humilité. Tout à fait, oui. Je le vois moins en sculpture ou en peinture. Oui, c'est intéressant comme question et à explorer, quoi. Oui, merci.
Ouais.
Je voulais savoir si c'était à dessein que vous aviez choisi des exemples qui sont vraiment des exemples de l'histoire de l'art occidental. Du coup, vous utilisez le terme histoire de l'art. En fait, on a vu essentiellement des œuvres qui sont presque principalement issues de l'histoire de l'art occidental.
Oui, tout à fait.
Du coup, est-ce que c'est dans votre recherche, c'est justement aussi par cet endroit-là que vous rentrez ou, est-ce que...
En fait, je suis un peu... certaines analyses que The Female Nude est en fait très typique pour l'histoire occidentale. On le trouve presque nulle part ailleurs dans cette forme-là, comme une sorte d'objet, corps blanc, féminin, structuré comme objet. On ne le trouve pas, j'ai travaillé un peu sur le shunga japonais, on ne le trouve pas. On trouve d'autres structures de domination et de domination et de peut-être même objectification, mais c'est à discuter, quoi. Il n'y a pas d'objectification vraiment de la représentation du corps féminin dans le shunga japonais.
Mais dans l'exemple que vous montrez, en fait, on voit un film où on est vraiment dans des pratiques performatives.
Oui.
Tandis que dans les images qu'on a vues, on est vraiment dans des pratiques de la représentation.
Oui, tout à fait.
Il y a une espèce de shift, parce qu'après, il y a des pratiques de l'art non occidental où les pratiques performatives sont dominantes par rapport aux pratiques de la représentation.
Oui, tout à fait.
Et du coup, il me semble qu'il y a un élément manquant dans notre.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai. Par exemple, bon, ici on a déjà plus d'exemples performatifs ou vidéos, le Schneemann, Kusama, Mona Hatoum, c'est pas du tout la représentation, je dirais. Bon, même là, Nietzsche n'est pas dans le niveau, dans le domaine de la représentation. Klein, non, le Shunga non plus, même si on voit des images représentées, mais c'est une autre dynamique. Mandiata non plus, je dirais, je ne sais pas. Bon, c'est la photographie, mais c'est la photographie peut-être même comme document de performance ou land art, combination des deux, je ne sais pas.
C'était plutôt pour voir s'il y avait un choix à délibérer, même en rapport avec le sujet de l'exposition, de travailler sur aussi, par exemple... la question de la représentation du corps blanc et de la femme blanche.
Oui.
Un choix délibéré, je veux dire.
Oui, tout à fait. Oui.
Yeah, I think the question of performance is quite important, but we may take it up in the discussion later. Thank you very much, Petra.